Bonjour, il me revient de vous parler ce matin, et puisqu'on est le centenaire de 1914, eh bien nous allons parler du Père Lamy en 1914. Pourquoi ? Parce qu'effectivement cette année c'est un centenaire, et c'est le centenaire de la fondation du pèlerinage de Notre-Dame-des-Bois. Et donc je vais relater avec vous l'événement. Mais j'aimerais élargir un peu pour parler de, on verra ça sous cet aspect, Notre-Dame-des-Bois et le Père Lamy et l'évangélisation. Parce que c'est un thème cher à notre pape qui nous relance pour la nouvelle évangélisation avec l'exhortation apostolique qu'il a écrite à la suite du synode, mais avec une grande marque personnelle et un franc parler. Il nous invite à aller aux périphéries, à nous dépasser. Et le Père Lamy, bon, il est un curé des périphéries parce qu'il habitait dans les quartiers de périphérie, à Troyes, à Saint-Ouen, à la Courneuve. Mais aussi, les choses vont prendre une forme plus forte dans son esprit. Je voudrais d'abord prendre le centenaire dont tout le monde parle, parce que celui de Père Lamy, tout le monde n'en parle pas dans les journaux, mais on parle au moins de celui de la guerre 14. Et effectivement, qui va avoir un impact très grand chez Père Lamy. Vous vous souvenez qu'il était connu pour parler de la guerre et qu'il fallait se convertir parce que la guerre allait arriver. Ça l'a pris au moins depuis 1909, puisque dans l'apparition de 1909, il avait vu le mur, qui est, vous voyez la petite chapelle de grès, il y a le petit hôtel, et puis qu'on se retourne, il y a un mur ici, c'était ouvert, et comme la télé, ça n'existait pas la télé à l'époque, mais il a vu comme la télé, et comme les informations, des villes, surtout orientales, brûlées, la carte étant des bateaux incendiés, enfin des batailles, etc., des morts dans tous les sens. Et donc il avait été prévenu comme ça. C'est pas une histoire, parce que dans les journaux, depuis la Triplice en 1905, les changements d'alliance, enfin en Europe, ont commencé déjà à parler de la guerre qui montait, etc. Mais lui, averti de l'intérieur et poussant dans sa mentalité, et il en parle, et la guerre vient. Et ça va être pour lui un regain de travail, un nouveau champ d'évangélisation, puisque par la Courneuve vont passer énormément de soldats qui, donc là on a toute dans la correspondance à sa famille. Qui c'est qui se marie? C'est frère Diego et les enfants. On a énormément de lettres, que ce soit à son neveu qui est à l'armée, qui sera blessé à un moment, donc qui retourne à la maison, puis qui retourne à l'armée, et à sa sœur et à son beau-frère. Eh bien, ils vont. Et là, il en parle, il parle, il prend des nouvelles, il envoie des petits colis, un vêtement en caoutchouc pour se protéger des intempéries. Évidemment, il est monté dans l'Oise, et son neveu, il va se battre dans l'Oise, en fait, du côté de Besançon, et puis après dans l'Oise. Et je vous dirai la suite après, mais le Père Lamy ne voyage pas comme il veut, parce que c'est la fin. Il vient de fonder au mois d'avril le pèlerinage Notre-Dame-des-Bois, et il dit, je suis retenu, je ne peux pas venir parce que j'ai la première lettre, 80 soldats dans m'occuper, blessés, etc., dont il faut s'occuper, et puis le mois d'après, il écrit, j'en ai 300, etc. Bon, enfin, vous voyez, là, ça augmente, et là, à la Courneuve, ça va être une très grosse activité nouvelle, mais d'administrer, d'être présent, d'organiser aussi le secours à tous ces soldats qui passent, et dont beaucoup de blessés. Bien. Je termine avec la guerre. Et dans ses lettres, il parle, il faut confier. Donc c'est tout nouveau, Notre-Dame-des-Bois vient d'être fondé. C'est tout nouveau. Et il dit, il faut Il faut prier, il faut être la protection maternelle de Marie, les paroles qu'il a faites, ses contrées sont protégées. Voilà. Et puis, ben ça tourne mal parce qu'en 1915, son neveu est tué, hein, et il est tué à Choisy-au-Bac. Et il est enterré à Choisy-au-Bac. C'est tout près de chez nous, là, ici. Hein. Et il y a une lettre de... Donc il est, je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être vers avril ou mai, quelque chose comme ça. Et au mois d'août, le père Lamy peut venir se libérer pour venir visiter la tombe ici. Et puis il y a toute une lettre qui relate ce petit voyage à Choisy-au-Bac dans les conditions difficiles parce qu'il arrive à Compiègne. Et pour rejoindre Choisy-au-Bac, la route, les routes qui existent alors sont complètement prises par les patrouilles, des tirs au loin, des véhicules qui passent. Il doit passer à travers les champs. Il met 2 heures pour faire Compiègne et Choisy-au-Bac. Bon, c'est pas mal de temps. Enfin, il raconte ça dans une petite lettre que vous pourrez voir. Une autre chose qui a démarré un petit peu avant 1914 pour fortifier sa vie intérieure, pour fortifier sa vie d'évangélisation, c'est que, ça on n'en parle pas beaucoup parce que dans la vie du père Lamy, c'est pas dit tellement. Par le comte Bivert, il n'en a pas parlé à ce moment-là, mais il va s'engager dans une association de prêtres qui s'appelle les clercs réguliers du Sacré-Cœur. Et il va y rentrer par un ami prêtre qui est voisin de sa paroisse. Si vous voulez, c'est quelque chose qui reste, c'est une association qui va se faire de prêtres qui veulent se soutenir dans leur vie intérieure surtout et dans leur travail d'évangélisation. C'est un peu une petite fraternité de prêtres où ils vivent une fois par mois, une sorte de rencontre, où ils rendent compte de leur vie intérieure, surtout de l'oraison, surtout de la fréquence de la rencontre du directeur spirituel, de l'ardeur à l'apostolat, etc., où ils s'interpellent un peu ensemble. Enfin, c'est vraiment de soutien. Vous voyez, enfin, c'est comme... c'est comme on appartient aux familles du Père Lamy, aux Oblats, etc. Et il va mener son noviciat dans cette association pendant tout 1914, puisque ça commence à la fin 1913, et il fait ses vœux le 21 novembre, définitif, le 21 novembre 1914. Donc c'est aussi cette période pour pouvoir avancer dans l'évangélisation. Il a besoin aussi de... C'est une nouvelle étape, si vous voulez. Les liens avec les Oblats de Saint-François de Sales se sont détendus dans les lettres, dans les premières années, puisque vous souvenez bien, il était le père Lamy Oblat de Saint-François de Sales. Il est nommé à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, il loge au collège des frères, mais il travaille dans la paroisse. Et il travaille dans la paroisse comme vicaire auprès des enfants et auprès des enfants des bidonvilles, hein, parce que c'est pratiquement que des bidonvilles Saint-Ouen à cette époque-là. Bon. Et ensuite, en 1900, donc vous voyez, c'est la tension, c'est des années de tension entre le cléricalisme et l'anticléricalisme, pour ne pas prendre parti, il va... Et donc, il est nommé curé en 1900. Il signe toujours sur les registres au début Oblat de Saint-François de Sales. Il y a des correspondances avec les frères de sa communauté qui l'invitent à venir, parce que certains sont réfugiés en Italie, à venir en Italie, etc. Mais lui, il est curé, etc. Et puis, 1914, bon, ben, il a ce manque du soutien de sa vie spirituelle. Parce qu'il est tout seul dans sa paroisse, il a beau avoir des confrères, il y a un doyenné, mais il y a besoin de, même s'il a eu son apparition, même s'il a tout ça, vous voyez, eh bien, il a besoin de ce soutien, de cette fraternité pour pouvoir avancer. Je pense que c'est un point assez intéressant. Bon, alors c'est vraiment un groupe de prêtres fervents qui était resté secret et qui allait à la rue d'Ulm. Vous savez, chez les sœurs de l'adoration réparatrice, Le père Lamy a fait des conférences, on le voit. On se demandait, pour moi, je me suis toujours demandé pourquoi il allait à la rue d'Ulm, parce que c'était le siège de cette association. Donc il y allait tous les mois, hein, avec justement un temps d'adoration ensemble, puis un temps de rencontre. Voilà. Donc c'est... Alors maintenant, la fondation elle-même de Notre-Dame-des-Bois. Vous vous souvenez que cette fondation, l'idée de la fondation dans son village, enfin pas très loin de son village, c'est de faire un lieu de prière qu'il a vu, hein, que Marie demande. Vous savez qu'après 1909, pendant plus d'un an, le père Lamy est un peu paralysé par ce qu'il a vécu, paralysé dans ses émotions, paralysé dans son action, et il ne se met pas tellement en route. Mais au bout d'un an, après, il se rend compte, il est devant le Seigneur, vous savez, c'est la fameuse phrase où il se présente, il redit la messe anniversaire à Grès, juste un an après l'apparition, et il arrive tout tremblant, il dit « Seigneur, prends pitié, j'ai rien fait de ce que, du don que tu m'as donné », et il y a le démon qui est à côté ici, là, de l'autel, qui dit « Piètre prière hein ». Et la Vierge qui répond « Oui ». Mais non, pardon, Jésus qui répond, oui, mais c'est le préféré de ma mère. voilà. Et ce qui dit bien la relation du père Lamy, enfin dans sa complexité avec Jésus et Marie. Ceci pour dire que il a rien fait, mais ça va après, ça va s'enclencher. Vous avez tout de suite après, dès le mois de septembre 1911, eh bien, il va faire une consécration de sa paroisse à Marie, en relation directement. Vous voyez, enfin, il a ce sens de consacrer à Marie sa paroisse. Vous vous souvenez que, bon, c'est pas l'abbé Desgenettes dont nous parlait le père à Notre-Dame des Victoires, le père Lamy, mais quand même, hein, il a repris une paroisse qui est... Il a eu une paroisse qui était vraiment en perte de vitesse, avec un curé qui était resté très très longtemps et qui, dans les tourments des conflits du 19e siècle de l'Église et de l'État, et qui était resté malade et très âgé pendant très longtemps, donc la paroisse était un peu allée toute seule, et il a repris. Et ici, il a ce sens aussi avec cette apparition de, pour l'évangélisation. On voit le père Lamy qui a le désir que ça marche, de porter du fruit. Enfin, dans les rapports de visite canonique, on voit cette volonté du père Lamy de se donner, de faire fructifier. Et là, justement, avec cette consécration, ben, il espère un peu que les cœurs puissent s'ouvrir hein, au Seigneur et revenir. Effectivement, c'est ce qui arrive petit à petit. Donc, il va repérer à la fin de 1911 la petite statue dans un magasin à Paris, place de la Croix-Rousse, qui se trouve à l'angle de la rue... du Four et la rue... Enfin, près, du côté de Sèvres-Babylone, entre Sèvres-Babylone et la rue de Rennes, bah, il y a une sorte de petite place en triangle. Bon, il y avait un magasin, là, avec... et puis, il voit dans le magasin, au mois de décembre 1911, il voit la statue s'illuminer, donc il revient en janvier pour l'acheter. Et puis... Il la laisse là, chez lui, enfin en attendant de pouvoir l'amener. Et en janvier 1914, il y a une opportunité pour acheter, là où est Notre-Dame-des-Bois, les parcelles 8 et 1, pour acheter ce petit, où il y a un petit chalet en bois, ancien relais de chasse, pour faire le pèlerinage. Il aurait bien aimé, lui, que ce soit un petit peu plus proche du paillis, mais bon, bah, c'est là que la Sainte Vierge l'a montré, il dit, et, bon, et puis que c'est là où il a pu acheter. Et alors, dès ce moment-là, Il l'achète et commence à aménager un peu, dès qu'il peut en prendre possession. Il commence à aménager. D'ailleurs, dans les lettres que je vous disais qu'il envoie à son beau-frère, à sa sœur et à son neveu, à chaque fois, il y a des recommandations pour faire tels petits travaux, pour s'émerveiller. Et puis, dès le début, il y a un peu des gens qui viennent au pèlerinage. Mais le pèlerinage va vraiment commencer le jour où le Père Lamy, le 20 avril, 1914, quand il va se rendre, parce que le Père Lamy, il ne va pas toujours, hein, il y va, il peut, quand il y va, il lui faut 4 jours de vacances au moins, hein, et ce n'est pas facile dans sa paroisse, et surtout après quand la guerre est déclarée, donc ce n'est pas énorme, mais il y va et puis il installe. Alors voilà, il va monter tout seul avec la statue sous le bras, enveloppée d'un papier de soie et lié avec une ficelle, et puis il commence à monter la petite grimpette là, qui est là, enfin, pas celle toute droite, mais c'est le chemin qui est avant qui est un petit peu comme ça en biais, et puis au milieu, ben, il fait souffler, il s'arrête, hein, et puis le paquet s'ouvre, hein, les ficelles se défendent. Et il trouve ça assez étonnant, parce qu'il était sûr de bien l'avoir fermé. Du coup, il va y avoir une deuxième étape de cette montée où il va en faire une sorte de petite procession. Geste qu'il aimait faire quand il était petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il était petit, il raconte ça au comte Bivert, hein, il aimait dans les peupliers près du paillis là, de prendre une image de la Vierge Marie et puis de faire une procession en la regardant comme ça, puis en chantant tous les cantiques qu'il pouvait, hein, et c'est là que dans les peupliers plus grands, il a vu Marie lui sourire et lui apparaître de manière lumineuse, comme ça, le jour où il faisait une procession. Et bien là, il refait une procession un peu de la même manière avec la statue de Notre-Dame-des-Bois. Et il monte, et en arrivant à la chapelle, il a une nouvelle fois une vision, la troisième là pour le coup, qui est une assemblée, une haie d'honneur, une haie faite par des saints qui l'accueillent, hein, qui accueillent Marie à la chapelle. Mais pour une fois, ce n'est pas comme il a eu les autres fois des saints, j'allais dire du calendrier, excusez-moi, enfin des saints officiels. C'est les saints qui sont en fait des gens du village, de son village, des gens qu'il a connus. Hein, et qui sont là, ils sont en habit sombre, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, etc., qui font une haie et qui accompagnent et qui chantent, qui sont dans cette procession, hein, qui font cette procession avec lui pour l'accueillir à Notre-Dame-des-Bois. Et il est très marqué, il s'arrête beaucoup en racontant que, vous vous rendez compte, il y avait même le cantonnier qui était là. Hein. Le cantonnier qui avait le coude un peu, qui se levait assez vite, hein, et qui, du coup, son travail s'en ressentait, hein, eh bien, il est aussi dans cette assemblée des saints. Hein. Et c'est une image très forte parce que vous vous souvenez, j'ai souvent parlé de cela aussi, dans l'apparition de 1909, quand il voit les saints, il y a des paroles qui sont échangées. Marie, elle parle avec sa mère à lui. Hein. Et son père est là aussi, et elle parle avec sa mère, et pour le Père Lamy, ça le bouleverse complètement, surtout que sa mère demande des nouvelles et prend soin de lui. Parce que je crois que les relations étaient assez conflictuelles, hein, et pas mal de difficultés. Et donc, c'est assez intéressant parce que, vous voyez, ce sens, dans ces apparitions, il y a ce sens qui est toujours derrière un peu chez le Père Lamy, c'est que la relation avec Marie le guérit. Hein, le fait avancer, vient guérir ses blessures profondes et vient lui permettre d'avancer aussi dans la réconciliation. Dans cet amour nouveau qu'on est appelé à porter, hein, puisque l'évangélisation, c'est apprendre à aimer les gens, mais avec l'amour de Jésus, eh bien, Il est poussé à l'intérieur. Et donc, il y avait cette apparition de Marie à l'intérieur, ce qui le touche beaucoup. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui le touche beaucoup, parce que c'est des gens qu'il a connus, qui étaient du village. Et même le gars dont tout le monde dit qu'il est Valérien, le cantonnier, il est là, il a reçu la miséricorde. Et pour le Père Lamy, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Vous vous souvenez, parce que le Père Lamy, c'est quand même un prêtre de miséricorde qui a le sens, qui se bat pour le salut des personnes, qui j'allais dire, bon, c'est pas l'expression de Saint Dominique qui pleure toutes les nuits pour dire Seigneur, que deviendront les pécheurs, mais quand même, c'est son souci. Hein, c'est son souci, et c'est vraiment pour le travail, pour la sanctification des gens, il veut se battre pour ça, il prie, il offre, il avance. Et donc on voit, c'est comme une réponse à sa prière, et une réponse pour pouvoir reprendre espoir, pour pouvoir communiquer eh bien, cette miséricorde du Seigneur, et aussi de voir que eh bien, c'est aussi une conception de l'Église, hein, qui est un peu, j'allais dire, qui est un peu nouvelle, enfin qu'on retrouvera plus facilement aujourd'hui. Nous, on est plus habitués, l'image de l'Église, peuple de Dieu, image prise, peuple de Dieu en marche, hein, qui est un peu l'image reprise aussi dans Lumen Gentium, au début de Lumen Gentium, pour parler d'Église, et avec Marie, justement, qui vient à la fin de tout cheminement de l'Église, mais qui l'accompagne, bien sûr, hein, qui est exactement comme dans la procession, qui l'accompagne, mais qui en est comme l'espérance, la réalisation plénière finale de Marie dans sa gloire et Marie dans sa royauté, qui est comme vraiment l'Évangile, ça marche, quoi. Enfin, la grâce de Jésus, ça marche, et ça nous attire, et ça nous fait avancer, et c'est, ça nous est donné. Eh bien, c'est vraiment un peu cette... Bon, faut pas exagérer, mais quand même, vous voyez, c'est, nous, on est habitués, mais à l'époque, je crois que c'est vraiment ce sens de l'Église qui accompagne, et c'est vraiment une grâce ecclésiale qui est donnée à Notre-Dame des Bois. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que il y a, même s'il est dans les écrits, dans les lettres, il est obligé de dire par prudence, c'est une dévotion, c'est un pèlerinage privé, c'est un culte privé, c'est pas un culte public, etc. Parce que il vient juste d'acheter, faire une chapelle dans une cabane de bois qu'il vient d'acheter. Hein. C'est quand même ce sens. De sens ecclésial, et les gens vont venir très vite, parce qu'effectivement, c'est la guerre, donc les gens sont, il y a une recrudescence de piété, de demande au Seigneur, de pouvoir protéger les fils, les maris qui sont partis à la guerre, etc. Et il y a un petit courant, quand le Père Lamy y va, par exemple au mois d'août 1914, il peut prendre quelques jours à la fin août, et il y a 30-40 personnes qui sont déjà là, hein. Avec bien sûr sur le lieu Monsieur Thirion, l'abbé Thirion qui fait le relais un petit peu. Enfin, il y a des, vous voyez, tout un petit circuit qui démarre. Comment définit-il ce pèlerinage ? Ben, c'est un lieu, hein, c'est un lieu c'est un lieu. Je vais le prendre sous plusieurs aspects. Dans l'apparition, c'était un lieu qui est un lieu signe. Hein, un lieu signe et un lieu de protection. Où Marie veille en cet endroit et les Allemands ne passeront pas par là. Hein, elle fera